Voilà, je dirais en gros, j'aurais aimé comprendre plus tôt comment la vraie vie fonctionne, comment la société fonctionne, comment le travail fonctionne, comment les relations de famille fonctionnent, comment les relations de couple fonctionnent. Tu vois, des petites choses que peut-être si on nous avait inculquées dans notre vie très tôt, eh ben, elles auraient été des normes sociales et des façons de fonctionner qui auraient simplifié beaucoup de choses. Et je pense que voilà, c'est ce que j'aurais aimé savoir. J'aurais voulu que je veux aujourd'hui que mes enfants puissent apprendre à l'école, comprendre, voilà, pour à 20 ans ou 22 ans, ben, ne pas être à la découverte de ses réalités, paniquer sur son avenir.
Bonjour, j'espère que tu te portes à merveille. C'est Dengue Togo, c'est l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. Alors aujourd'hui, je reçois un très bon ami à moi que je connais depuis le Sénégal qui s'appelle Sobel Aziz Ngom, qui a été pendant près de 6 ans le directeur exécutif et également le fondateur de SCF, Social Chain Factory. Qui est une organisation de jeunes, donc de jeunesse tout simplement, et qui œuvre en fait à l'éducation des jeunes, qui met en place et qui met en œuvre justement des programmes à l'endroit de la jeunesse, pas seulement de la jeunesse sénégalaise, parce qu'on peut retrouver justement SCF sur plusieurs pays finalement, en Afrique de l'Ouest. Et c'est un plaisir pour moi de le recevoir dans cette émission parce qu'on va parler d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, Sobel Aziz Ngom est le président du consortium Jeunesse Sénégal pour quelques années. Et il œuvre toujours en fait pour la jeunesse. Il a 30 ans et il a accompli tellement, tellement, tellement de choses déjà. Alors, on va parler justement de ça, de ce qu'on appelle en quelque sorte la réussite de l'éducation, donc de la différence qu'il faut faire entre éducation et instruction. Parce que c'est très important, de la vie de couple aussi, de ce qu'on aurait aimé savoir sur les relations humaines, etc. Des exigences en fait qui peuvent être différentes en fait d'une étape à une autre. Donc Sobel nous a vraiment parlé de lui en détail et je vous invite à le découvrir progressivement justement dans l'échange que j'ai avec lui. Et je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin parce que l'idée aussi c'est de pouvoir revenir sur ces sujets et d'apporter beaucoup plus d'éléments dans la conclusion. J'espère que la conclusion va vous faire du bien parce que franchement, il y a tellement, tellement de choses que je vais dire. Parce que c'est un sujet qui me parle personnellement déjà parce que j'adore en fait tout ce qui touche à l'éducation. Et donc, je pense que je suis vraiment dans mon élément. Alors, je vous souhaite une agréable écoute, tout simplement. Et restez câblés, posez des questions à la fin, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Alors, on se dit à tantôt. J'aimerais remercier chacun de vous pour l'écoute, pour le temps que vous consacrez en fait à ce podcast. Il y en a qui écoutent ce podcast en étant à la cuisine, il y en a qui l'écoutent tout simplement en faisant du jogging, du sport. J'en profite pour remercier également en fait tous ceux qui m'envoient leurs commentaires, parfois sur WhatsApp, parfois sur Twitter, sur Facebook. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir autant d'intérêt. Et aussi sur Instagram depuis un petit moment déjà. Donc merci déjà à vous tous qui écoutez ce podcast, qui manifestez toujours de l'intérêt. Et merci aussi à tous ceux qui me proposent des sujets aussi pour les prochains épisodes qui s'en viennent. Merci à vous également. J'en profite pour ceux qui font la pub de ce podcast en background. Ça me fait plaisir parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous faites du bon travail. On m'écrit parfois pour me dire « Ah, j'ai retrouvé le lien de ton podcast sur tel statut, etc. » C'est tel ami qui l'a partagé dans tel groupe. Et je trouve ça vraiment formidable de voir que ça vous fait plaisir. Et j'en profite pour passer un instant pub rapidement. Alors, la première chose, c'est que j'ai mis en ligne un formulaire. Disons un formulaire qui me permet de collecter des informations sur vous, sur pourquoi vous aimez le podcast, qu'est-ce qui vous plaît concrètement dans ce podcast. Donc, un peu comme justement une enquête de satisfaction pour me permettre de faire mieux, évidemment. Étant donné qu'il y a certaines personnes qui voudraient bien contribuer financièrement à la production de ce podcast, j'en profite pour vous informer qu'il y a un lien PayPal que j'ai mis en ligne, que vous pouvez retrouver très facilement en allant sur le lien général du podcast, The Linked. Et donc, je pourrais toujours le mettre en fait, dans la description, vous le retrouvez très facilement. C'est le premier lien qui est en haut, en fait. Voilà, dès que vous allez sur le lien général du podcast pour soutenir en fait la production de l'épisode. Seconde chose, rapidement, c'est qu'il y a eu une initiative qui a été lancée récemment par des Togolais. Une personne au Canada, une personne en fait en France. L'idée en fait c'est de permettre à ceux qui sont dans la diaspora de pouvoir financer leur famille, leurs amis, etc. Soutenir leurs amis tout simplement financièrement, mais par l'achat de crédits de communication. Donc vous pouvez justement payer des crédits de communication Togocel et Mou, si je ne me trompe pas. Alors moi je l'ai essayé personnellement et ça marche très bien. Alors, la plateforme, c'est diaspé.com, mais je vais mettre justement le lien dans la description du podcast. Et s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, on se dit à tantôt pour l'échange avec Sobeng. Allez, à plus. C'est bien d'être.
'Soit un de mes proches amis, je dirais, une personne avec qui justement j'ai beaucoup eu à discuter et qui a beaucoup de contacts avec les jeunes. Alors, Sobel, comment tu vas?
Bah, écoute, Edem, je vais très bien. Je suis très, très content de partager ce podcast avec toi et d'approfondir les nombreuses conversations qu'on a eues à travers les années sur des sujets relatifs à la jeunesse de façon générale. Et je te remercie de m'avoir invité à être participant à ton super podcast.
Voilà, ça me fait plaisir que tu aies trouvé justement le temps pour partager tout ça avec nous. Alors, Sobel, je pense que beaucoup de gens te connaissent un petit peu quand même. Et ça, c'est juste une façon de parler parce que je pense qu'on te connaît tous quelque part. Mais je pense qu'il y a certaines personnes peut-être qui ont entendu parler de toi, mais qui ne te connaissent pas très bien et tout. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Sobel Aziz Ngom. J'ai 30 ans, je suis sénégalais. Je suis né ici et j'ai grandi ici. J'ai fait mon parcours scolaire ici. L'essentiel de mon parcours professionnel également au Sénégal. Je travaille aujourd'hui dans un univers qui est un univers de humain d'abord plutôt et de développement. Ensuite, c'est le monde de la transmission, de l'éducation, de l'accompagnement et tout ça. Et je m'y plais grandement. C'est parti d'une volonté d'aider, c'est devenu une compétence professionnelle et humaine, et je suis très heureux de faire ça. Je suis, à côté de mon travail, un passionné de voyage, un passionné de nourriture, comme ça peut se voir, un passionné des chevaux aussi, et un grand voyageur baroudeur, notamment dans les différentes perles que le Sénégal peut offrir et que beaucoup de monde ne connaissent pas. Moi, je me fais le grand plaisir d'y aller très souvent pour être heureux pour me rafraîchir l'esprit, le cœur et voilà.
D'accord. Oh, on découvre une autre partie de Sommel. C'est bien.
C'est ça. C'est ça. Tu veux que je parle davantage de ce que des choses les moins publiables sur Facebook, en tout cas.
En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Mais moi, j'ai d'ores et déjà envie de savoir là où tu en es, en fait, dans ton projet professionnel.
J'en suis à une étape de transition, en réalité, toujours dans le même monde, avec les mêmes ambitions pour la jeunesse, pour l'insertion, pour l'éducation, mais dans une transition professionnelle en termes de responsabilité, où pendant 6 ans maintenant, depuis que j'ai fondé SCF, j'ai dirigé SCF, donc Social Change Factory, un centre d'innovation et de leadership pour les jeunes, qui est basé à Dakar et qui agit un peu dans la sous-région, à aujourd'hui prendre la direction d'une entité fédératrice d'initiatives qui, elle aussi, travaille pour les jeunes, que ce soit dans l'apprentissage, dans l'insertion ou dans l'inclusion. Et donc, c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle opportunité pour moi et pour les missions que l'on s'est données en tant qu'organisation qui formons ce consortium, donc il s'appelle le Consortium Jeunesse Sénégal, et je suis très très excité et heureux de cette nouvelle réalité qui s'offre à moi et de ce privilège d'avoir à diriger ce consortium qui réunit des organisations formidables et des personnes formidables qui depuis longtemps sont chacune engagées sur des questions importantes pour la jeunesse, qui ont fait leurs preuves, qui ont pu réaliser des résultats super inspirants, qui ont contribué à changer des vies. Et j'espère avec vraiment, vraiment tout mon cœur qu'on va y arriver. On va arriver ensemble à faire mieux et à faire plus que ce qu'on parvenait à faire séparément. C'est le but. Et donc, c'est une étape une nouvelle étape dans ma carrière professionnelle, mais aussi dans mon engagement qui s'ouvre, donc une nouvelle fenêtre. Et voilà, et je me souhaite le meilleur et je nous souhaite le meilleur et je suis très excité par ce projet.
D'accord, je pense que je connais très bien justement ton organisation qui fait d'ailleurs du bon travail par ailleurs et je me demandais et là je me suis jamais intéressé à ça mais dans ce podcast je pense qu'on va un peu en parler. Est-ce que tu as eu un parcours universitaire qui a été bénéfique, en fait, à ton projet professionnel?
Déjà, j'ai eu un parcours universitaire assez modeste. Hein. Je suis simplement titulaire d'une licence en communication. Je ne vais pas dire que ma licence en communication m'a particulièrement aidé dans mon projet professionnel. Je pense qu'elle a dû contribuer à me donner certaines compétences et certaines connaissances qui me sont utiles aujourd'hui. Mais clairement, je fais partie de ce groupe dont la destinée ou le destin n'est pas le résultat probant de son éducation scolaire ou universitaire. C'est le feeling que j'en ai. Après, je pense qu'inconsciemment, il y a énormément de choses que l'école ou que l'université a pu m'offrir qui ont contribué à faire la personne que je suis. Mais l'éducation de la vie, j'ai le sentiment que l'éducation de la vie, que mon engagement citoyen ont plus été une école motrice qui a vraiment davantage contribué à construire la personne que je suis, la pensée que j'ai et l'engagement que je vis au quotidien dans ce que je fais.
Wow, ok. Du coup, j'ai bien envie de savoir, Sobel, est-ce que tu as quelque chose à reprocher à ton parcours académique, si tu peux le dire ainsi?
Oui, complètement. J'ai tellement de choses à reprocher à mon parcours académique qu'on pourrait faire un podcast juste sur ça. Non, je pense que l'école est une bonne chose en soi. Mais en réalité, l'école est un véhicule. C'est un véhicule qui permet d'éduquer les gens. Ce que je pense fondamentalement, c'est que ce véhicule-là a créé des sièges pour un certain groupe de personnes, mais pas pour transporter tout le monde, en se donnant l'obligation de transporter tout le monde. Et donc, ça veut dire que tu es obligé d'aller à l'école, tu y vas, mais tu n'as pas nécessairement les réponses ou les orientations qui te correspondent à toi en tant qu'enfant, avec la pensée que tu as, les centres d'intérêt que tu as. Tu dois suivre un moule, tu suis le moule, bon, tout le monde est passé par là. Ce n'est pas tant une tragédie pour ceux qui s'en sont sortis, mais pour ceux qui ne s'en sont pas sortis, ça l'est. Et beaucoup ne s'en sont pas sortis. Je pense que l'école a plein de défis et que c'est des défis qui, en fait, sur un principe de réalité, ne peuvent pas attendre, dans le sens où, en tout cas, dans nos pays, on a à peu près un enfant ou adolescent sur deux en âge d'être scolarisé qui l'est. Donc déjà, ça, c'est un grand problème. Ensuite, ceux qui le sont, sont pas nécessairement éduqués, ni avec les bons moyens, ni dans les formats qui leur permettraient d'assurer une autonomie pour eux au 21e siècle. Ils sont instruits, beaucoup, éduqués, pas beaucoup, formés, encore moins. On a des jeunes, voilà, qui vont à l'école pendant 15 ans, qui vont à l'université pendant 5 ans et qui ensuite ne savent rien faire. Tu vois, ça, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Il nous faut une école qui soit plus responsive, comme on aurait dit. Une école qui puisse beaucoup plus rapidement permettre à un enfant ou un adolescent d'avoir des bases, d'accord ? Moi, je vois mes enfants quand ils reviennent à l'école, je discute toujours qu'est-ce que vous avez appris, etc. Mais en fait, l'école, c'est comme une, je le vois comme une forme de cage d'illusion qui ne met pas l'enfant dans le contexte réel de la vie et qui va ensuite, plusieurs années après l'avoir isolé de la réalité, le replonger dedans en lui disant « débrouille-toi maintenant ». Je pense que l'école devrait être beaucoup plus liée à la vraie vie, à la façon dont chaque cité fonctionne, à ses limites, à ses opportunités, à ses avantages naturels, à son histoire, etc. Ce qui fait que les gens auront des attaches qui seront plus solides au long de leur processus et pourront développer une pensée qui soit constructive, qui soit solution, parce qu'ils auront accès à tout ce qui est problématique, ils l'auront compris. Et donc, ils seront plus à même de pouvoir penser des solutions pour résoudre ce qui ne va pas et des améliorations pour rendre meilleur ce qui est déjà pas mal. Je pense aussi que l'école qui est faite pour... en tout cas, pas qui est faite, mais qui, dans sa pratique, catégorise les gens en des groupes de compétences. Donc, allez, si tu écris bien le français, tu es littéraire. Si tu es bon en maths, tu es scientifique. Si tu n'es pas très bon dans les deux, mais que globalement, tu es moyen, tu es économiste. Tu vois ? Je pense que ce n'est pas les métiers ou les filières nécessairement qui recrutent le plus dans le monde. Bien que ce soit des filières très importantes, je ne veux pas dire qu'elles ne le sont pas, elles sont importantes et elles doivent et elles vont continuer à former des experts et des fonctions utiles, mais on ne peut pas cantonner tout un groupe d'âge, tout un groupe d'une population en disant voilà, c'est ça que vous allez faire, parce que ce n'est pas vrai, tu vois, je veux dire, le jeune il va commencer, il va aller travailler dans un centre d'appel, quoi. Tu vois, en quoi, je veux dire, sa seconde, sa première ou sa terminale l'auront particulièrement aidé à avoir ce premier job pour se payer les études ou quoi que ce soit. Donc, je trouve qu'il y a une inadéquation entre la vie réelle et la vie et le curriculum de l'école. Et je pense que voilà, ce sont des grands défis, en tout cas sur lesquels moi je m'interroge beaucoup, sur lesquels je réfléchis à des solutions. Vraiment, comme je te disais, je pense que l'école devrait être beaucoup plus courte, beaucoup plus, à la fois beaucoup plus politique et beaucoup plus pratique. beaucoup plus politique dans le sens où à l'école, on doit éduquer des gens à des normes, à des valeurs, à des façons de fonctionner. C'est à l'école qu'on doit apprendre à ne pas être corrompu de façon claire, pas en nous punissant seulement quand on triche, mais c'est des sujets dont on doit parler, qui doivent faire partir de la vie pour former des citoyens qui vont vomir la corruption quelque part, quel que soit leur niveau de vie ou de richesse ou de précarité. Qu'il faut que à l'école, les gens apprennent d'où ils viennent, ce qu'ils sont, ce qui s'est fait de bon et de beau dans leur environnement, qui sont les gens qui ont fait ces choses-là pour qu'ils puissent développer un sentiment d'appartenance à ce pays, à cette nation ou à cette communauté, et que les jeunes, comme je le disais tout à l'heure, puissent être très rapidement envoyés sur le terrain en considérant que c'est là que vous allez apprendre. Ensuite, l'école va permettre de catalyser, d'harmoniser, de corriger peut-être des leçons qui auraient été mal comprises, des exercices qui n'auraient pas été très bien faits. Mais voilà, parce qu'on dit toujours, on se plaint toujours de gens qui sont corrompus, de gens qui ne sont pas disciplinés, de gens qui ne sont pas responsables ni engagés. Mais comment tu deviens tout ça si on ne t'a jamais appris à devenir ça ? Ça ne peut pas juste être une contrainte de société, ça doit être une éducation. On doit former nos enfants à ce qu'on veut que notre société soit. Je pense que l'école ne répond pas à cette question. L'école ne contribue pas à former les citoyens que la société d'aujourd'hui doivent avoir pour construire les rêves qu'ils projettent aujourd'hui. Pour moi, si on veut que demain le Sénégal soit un pays vert avec une technologie avancée, on doit former des gens qui vont être des spécialistes dans ces domaines-là, qui vont être formés sur ces enjeux, conscientisés sur ces enjeux, et qui vont grandir en se disant « this is the thing to do ».
Mais du coup, dis-moi, Sobel, comment tu imagines le rôle des parents en fait, dans ce processus que tu viens de décrire ?
Mais en fait, pour moi, le rôle des... Enfin, effectivement, tu vois, il y a toujours, oui, l'école n'a pas pour mission d'éduquer, les parents doivent éduquer. Oui, je suis d'accord. Mais des parents qui travaillent tous les jours de 8h à 18h, c'est difficile, tu vois, d'éduquer. Et donc, vu qu'on est dans une société qui fonctionne comme ça, et qu'il y a une institution qui s'est donnée, il y a des siècles, un mandat d'éducation, je pense que l'école peut contribuer fortement à éduquer. Au-delà d'inscrire sur ce que nous avons en commun. Tu vois, les parents, je pense évidemment que les parents ont un rôle extrêmement important à jouer, surtout dans l'éducation, évidemment, et dans la culture de leurs enfants. Mais dans beaucoup de cas, encore aujourd'hui, au Sénégal, en Afrique, tu as beaucoup d'enfants qui rentrent à l'école alors que leurs parents n'y sont pas allés. Donc, tu sais, quand on te donne un cahier de texte, des devoirs et plein de trucs qui, déjà, pour celui qui est instruit, ne font pas beaucoup de sens, qu'on te les donne à celui qui n'est pas instruit. Tu vois, moi, quand ma fille me demande de l'aider avec des équations de X plus Y, etc., moi, je me dis, oh mon Dieu, tu vois, mais je sais ce que c'est qu'une équation. Tu vas voir un parent dont l'enfant qui n'a pas les moyens de payer des répétiteurs, etc. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, le principe fondamental de l'école ne doit pas être d'apprendre aux jeunes des choses, mais de leur apprendre à apprendre, afin qu'ils puissent avoir l'autonomie de pouvoir s'instruire, s'informer, s'éduquer sur n'importe quel sujet de leur intérêt. Et peut-être la société devrait amener les parents ou former les parents à pouvoir guider leur enfant dans ce processus-là. C'est efficace. Des fois, il y a besoin d'une grande technologie pour faire bouger les choses. Des fois, il y a juste besoin d'une mécanique à deux phases. Et si cette mécanique à deux phases, comme le vélo, tu pédales d'un côté et de l'autre, eh ben, ça avance. Peut-être que les parents, au lieu de leur demander de comprendre des moteurs de Ferrari, on devrait tout simplement les aider à pouvoir pédaler de telle sorte à accompagner leurs enfants, même sans qu'ils n'aient de grands savoirs, sans qu'ils n'aient une grande culture, mais d'accompagner leurs enfants à structurer et à renforcer leur savoir et leur culture.
D'accord. J'espère que ce podcast sera utile, justement. D'ailleurs, c'est le but du jeu, pour permettre aux jeunes parents que nous sommes, que nous serons, de pouvoir comprendre aussi cela, parce que c'est très important ce que tu viens de partager. Alors, on va aller vers justement la grande question, la question centrale de ce podcast, Sobel. J'aimerais savoir les choses que tu aurais aimé savoir et qui auraient peut-être changé des choses dans ta vie actuelle ou dans ta façon de voir les choses, etc.
Alors, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que il n'y a pas que les premiers de la classe qui s'en sortent dans la vie. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est que la réalité, une fois que tu as basculé dans la réalité des adultes, tu perds quand même l'essence de ta jeunesse et donc de ta folie, de ta liberté pleine, etc., etc.
Voilà, je dirais en gros, j'aurais aimé comprendre plus tôt comment la vraie vie fonctionne, comment la société fonctionne, comment le travail fonctionne, comment les relations de famille fonctionnent, comment les relations de couple fonctionnent. Tu vois, plutôt voilà, qu'un peu une vie sous des dessins animés où finalement la réalité des parents, la réalité de la vie, elle t'est un peu souvent. Voilà, tu comprends pas tout, quoi. Mais bon, c'est un peu normal. Mais je pense en fait qu'on est infantilisé un peu trop. Je pense qu'à 13 ans, quand on rentre dans l'adolescence, en fait, c'est vraiment une transition vers l'âge adulte. Et c'est une transition qui doit aller avec une responsabilisation et un sens de. Voilà, tu vois, de la conscience, en fait. Vraiment de la conscience que voilà, tu as accès à une éducation, d'autres n'ont pas accès à une éducation. Une de tes responsabilités, c'est d'œuvrer à faire que une personne qui n'a pas accès à l'éducation puisse apprendre des choses grâce à toi. Tu vois, des petites choses que peut-être si on nous avait inculquées dans notre vie très tôt, eh ben, elles auraient été des normes sociales et des façons de fonctionner qui auraient simplifié beaucoup de choses. Tu vois, sur le transport, bon, tu vois, comme vous habitez dans le même quartier et qu'il y en a qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, etc. Tu vois, plein de choses de base qui aujourd'hui reviennent, si tu veux, avec des solutions numériques qui permettent ça. Mais bon, les solutions numériques, il n'y en a pas encore partout. Et je pense que c'est d'abord des organisations sociales qui permettent de faire ça. Et je pense que c'est, voilà, c'est ce que j'aurais aimé savoir, que j'aurais voulu que je veux aujourd'hui que mes enfants puissent apprendre à l'école, comprendre. Voilà, pour à 20 ans ou 22 ans, ben, ne pas être à la découverte de ses réalités, paniquer sur son avenir, stresser, parce que tu vois, les jeunes maintenant à 21 ans, ils peuvent te dire, bon, j'ai le sentiment d'avoir échoué ma vie. Tu n'as rien fait dans ta vie encore, si tu vas échouer, tu vois. Mais la pression, elle est tellement là, le fait de, voilà, si tu n'as pas d'iPhone, truc, ou si tu n'as pas de ceci, si tu n'as pas de cela, si tu n'es pas dans cette liste, si tu n'as pas ce prix, si tu n'as pas ceci, tu n'es rien, que finalement. Tu as une grande forme de dépression des jeunes à la vingtaine qui ont un sentiment d'échec, même quand ils sont au top de plein de choses, hein. Et c'est parce que je pense qu'on ne nous a pas préparés à la vie réelle. Et voilà. Et tout ça, ce sont des choses que si j'avais une influence sur ce que l'on doit apprendre aux enfants, etc., ben je le ferais. Je le fais dans mes programmes, évidemment, parce qu'on a le contrôle de ce qu'on transmet. Et voilà.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu viens de dire, surtout concernant pas seulement les choses que tu aurais aimé savoir, mais un peu les petits conseils qui ont accompagné cela. Sobel, je vais te demander de choisir entre 1 et 5. On a 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu peux choisir un chiffre, s'il te plaît?
4.
4, d'accord. Alors, je te lis la question. Alors, ça, c'est la question de podcast.
OK.
Alors, voilà. Sobel, il y a un cas pratique, OK?
Ouais. OK.
Tu es face à un adolescent, d'accord,
Ouais.
qui est ton enfant, à toi, qui
Ouais.
a 13-14 ans, OK?
Ouais.
Et qui te dit, je voudrais que tu me parles de trois choses. Qui te semble importante pour moi, pour pouvoir me préparer à la vie d'adulte. Qu'est-ce que tu dirais à cet enfant, ou à cet adolescent, ou à cette adolescente? Ça peut être une femme aussi, il n'y a pas de souci.
Ouais. Non, je dirais à cet adolescent de pas avoir peur de ses parents et de comprendre que ses parents veulent son bien mais de se donner la liberté de vivre ses expériences et de tout en suivant sa conscience et sa bienséance. D'une part, de vivre ses amours, de vivre ses expériences, ses aventures, et de les accueillir comme des cadeaux de la vie, de ne pas être dans les excès, dans quoi que ce soit, de comprendre en fait que l'équilibre, c'est important, même quand on a des envies, d'essayer toujours d'être conscient et honnête vis-à-vis de ses propres dérives, qu'on les accepte devant les gens ou pas, et d'avoir l'humilité de ne pas être d'accord, mais d'être d'accord que d'autres ne soient pas d'accord aussi. De choisir ses combats, de commencer à apprendre que dans la vie, il y a des petits combats et il y a des grands combats et que c'est important de s'économiser pour les grands combats, les choses sur lesquelles nos actions ou nos réactions peuvent avoir une influence majeure et qui sont importantes pour nous, ce sont nos grands combats, les choses, tu vois, qui sont moyennement importantes et sur lesquelles on n'a pas nécessairement de pouvoir, ce sont des combats qui ne sont pas nécessairement à mener. Pour terminer, je lui dirais je lui conseillerais de considérer que la réussite dans la vie de quelqu'un, enfin, je lui conseillerais que dans, de lui dire, en tout cas, ce qui vient de ma perspective, c'est la réussite dans la vie, c'est être en mesure de contribuer à la réussite des autres. Ça, c'est déjà sa propre réussite. Et que pour ça, il faut connaître et savoir. Et donc, de s'enrichir, de se cultiver. Et encore une fois, de vivre des expériences, de s'engager sur, et de comprendre les enjeux politiques et puis de s'y intéresser. Et puis de se forger une opinion sur des questions qui sont importantes en fonction des données dont il peut avoir accès. Moi, je pense honnêtement qu'à partir de 13 ans, on devient un petit adulte et qu'il faut être éduqué et formé comme un petit adulte.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour tes priorités, pour ce que tu viens de partager. Et une dernière question avant qu'on ne passe justement aux aspects conseils. Je pense que tu as beaucoup de conseils à nous partager probablement et à partager à tous ceux qui nous écoutent. Juste une dernière question par rapport justement à l'équilibre qu'on peut retrouver entre la vie sentimentale privée et la vie professionnelle. Toi, à ton niveau, si tu devais donner un conseil en fait aux jeunes comme nous en fait qui ont déjà 25, 26, 27 ans, qui sont en train de se construire hein, professionnellement, qui veulent peut-être se lancer dans une vie de couple, mais qui se posent des questions, etc. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça?
Bah, écoute, je pense que je ne suis vraiment pas le bon exemple pour donner un conseil sur cette question-là. tu sais, quand tu fais de ta passion ton travail, eh ben, ton travail ne peut plus être du 7 à 5. Du 9 à 5, tu vois. Quand ton travail, c'est ta passion, ben, tu la vis comme une passion, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rationnelle ou planifiée ou organisée. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme et une famille qui comprend pleinement ça. Mon équilibre à moi est un équilibre, mais il n'est pas le même que beaucoup de gens qui ont des heures de travail et des jours de travail. Moi, je pense que je peux dire qu'il y a des jours il n'y a pas nécessairement de jours où je travaille ou de jours où je ne travaille pas. Mais il y a des moments que je m'accorde. Tu vois, un lundi à 10h, je peux m'accorder 2 heures pour aller me promener ou pour aller manger une glace si les enfants sont en vacances, parce que de toute façon, je travaillerai plus tard. Et parce que, si tu veux, je n'ai pas pu construire de barrières entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. J'avoue que je ne l'ai pas nécessairement voulu. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas cherché à le faire. Mais j'ai la perception que l'équilibre jusque-là entre les deux n'est pas malsain. Donc, ça me permet de pouvoir continuer à fonctionner. Voilà, tu vois, à fonctionner en étant épanoui, en ayant le sentiment de vivre pleinement ma vie de famille, de vivre pleinement ma vie de travail. Et de ne pas avoir trop de pression sur celle-ci.
D'accord. Je pense que ce que je retiens de fondamental, en fait, Ben, c'est deux choses, d'accord? La première chose, c'est que tu t'accordes un moment pour passer du temps avec ta famille, pour passer
du temps avec moi-même. C'est
exactement.
Ça, exactement. Beaucoup de temps avec moi-même.
Exactement. Et je pense que beaucoup de gens ne le font pas.
Je me réveille très tôt le matin. Vers 5h30, je passe une heure avec moi-même, qui est très agréable. Donc le jour se lève, et ensuite une autre heure avec moi-même et avec la famille ou ma femme, ou comme en fonction de qui est réveillé, qui a envie d'être sur la terrasse. Et voilà, c'est les premiers moments de la journée, c'est les moments où des fois mon fils me rejoint sur la terrasse. Il a 3 ans pour faire du vélo le matin avant d'aller à l'école. Moi, je trouve ça très sympa. Il fait encore nuit. Lui, il est déjà en pleine forme, etc. Voilà. Moi, je pense qu'en fait, l'équilibre, il faut le trouver et il faut surtout accepter que l'équilibre n'est pas le même tout le temps et qu'il y a des moments où effectivement, on va travailler un peu plus que la moyenne et qu'il y a d'autres moments où on pourra donner un peu plus de son temps à des causes et à d'autres moments où on pourra un peu plus s'amuser avec sa femme ou avec ses enfants. Et que tout ça fait partie d'un cycle, en tout cas, de construction. Parce que je pense que, tu vois, quand on a entre 20 et 30 ans, entre 30 et 40, entre 40 et 50, on n'est pas aux mêmes étapes de la vie. Ni notre travail, ni notre famille n'ont les mêmes exigences. Donc, je pense qu'il faut, voilà, il faut juste essayer de trouver qu'on a un équilibre soi-même qui est OK. Et tant qu'on estime que ce n'est pas OK, voilà, je pense que ça veut dire que there is some work to do.
Ouais, et je retiens aussi la seconde chose, c'est qu'en fait, ta famille le comprend, c'est ça en fait.
Oui, effectivement. Bon, ma femme est entrepreneur comme moi, elle travaille sur des sujets qui lui demandent un engagement extrêmement important. On se rejoint sur le fait que on le savait en se mettant ensemble, et on savait que ça continuerait, et on éduque nos enfants dans cette réalité-là afin qu'ils puissent le vivre le mieux possible et qu'on puisse faire le max et ce qu'on a à faire pour eux.
D'accord. Alors, Soubelle, on tend vers la fin. Alors, on est à la fin du podcast, mais avant toute chose, on va accueillir tes conseils aux plus jeunes qui nous écoutent. Ça peut être des conseils sur tout aspect de la vie, ça peut être les relations de couple, ça peut être professionnel, ça peut être sur l'éducation à la sexualité, tout ce que tu veux. Ou aussi, ça peut être justement le rôle de l'école, comme tu l'as si bien dit. Donc, je te donne 3 à 5 minutes pour des conseils, recommandations à tous ceux qui nous écoutent.
Non, peut-être que le conseil que je peux donner aux plus jeunes, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'échouer, de façon générale. Parce que quand tu as peur d'échouer, tu ne testes pas. Quand tu n'as pas peur d'échouer, tu testes beaucoup. Les jeunes pourraient gagner à considérer la notion d'échec comme une notion étrangère, comme une notion à bannir afin de pouvoir aller au bout de leurs idées, d'essayer. Ça ne marche pas. Oh, qu'est-ce que j'ai appris du fait que ça ne marche pas? Ah, cool. Donc, ben, je vais le refaire, mais je vais le refaire différemment. Parce que chaque, entre guillemets, échec, en réalité, c'est une leçon qui te permet d'aller plus vite pour l'étape suivante. Et je sais que beaucoup de gens ne sont pas préparés à l'échec et considèrent le fait de ne pas réussir quelque chose comme justement une défaite. Or, en tant qu'entrepreneur, Ce que tu vois, c'est que chaque chose que tu n'as pas réussi, ben, tu as appris quelque chose d'extrêmement utile pour la prochaine chose que tu vas réussir. Et donc, je souhaite aux plus jeunes, souvent, de beaucoup échouer maintenant, tôt, pendant qu'ils sont jeunes, pour se renforcer, pour être encore plus fort et pour se donner plus de chances de gagner les combats qui seront vraiment les combats les plus importants pour eux.
D'accord, ça c'est la parole de sage, un peu comme Salomon. En tout cas, merci beaucoup Sobel, pour le temps, pour le partage. Et je pense qu'on va donner rendez-vous à nos auditeurs pour le prochain podcast dans les jours à venir. Et bien entendu, on reste en contact.
Merci beaucoup Edem, à bientôt.
À bientôt. Et avant toute chose, Sobel, je pense que les gens peuvent te contacter s'ils le veulent, bien sûr.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mes réseaux sociaux, c'est Sobel Aziz Ngob. Je pense que je suis présent sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Voilà.
Ok, bah parce qu'on ne sait jamais.
Yes, avec plaisir.
D'accord, merci beaucoup Sobel et on se dit à tantôt.
Ça marche, Edem, à tantôt. Ciao.
Ciao.
Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça t'a fait plaisir d'écouter cet épisode avec Sobel Aziz Ngom. Il est sénégalais, comme tu as pu le remarquer, comme je l'ai déjà mentionné d'ailleurs au début de l'épisode, et il travaille justement dans le mouvement jeunesse, si je dois résumer rapidement ce qu'il en est. Alors, avant de passer aux conseils, aux recommandations, au petit résumé de cet épisode, je m'en vais en fait faire une petite annonce rapide. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui, ou des auditeurs, des auditrices qui réagissent vraiment positivement à ce podcast. Alors, première chose, je voudrais remercier une personne, Massan Agbotier Bonfou, qui a contribué financièrement à la cagnotte sur PayPal à hauteur de 100 dollars, francs canadiens, bon, dollars canadiens, et qui depuis le début justement de cette aventure a été toujours intéressé par ce podcast. Merci beaucoup à Massan Agbotier. Donc, vous pourrez la remercier également de ma part, ça me ferait vraiment plaisir. Mais voilà, je tiens à remercier aussi toutes ces personnes qui partagent énormément en fait ce podcast et qui font la promotion du podcast auprès de leurs amis, etc. Alors voilà, c'était la première annonce. La deuxième annonce, rapidement, c'est pour vous parler de DSP. tradeunion.togo.com que je ne sais pas trop si vous avez déjà été sur ce site, mais je mettrai en fait le lien du site dans la description du podcast, donc vous pourrez aller dessus. Alors c'est un site en fait qui a été créé par des Togolais. Togolais en fait en France, un autre au Canada, et qui permet en fait à tout Togolais qui réside dans la diaspora de pouvoir disons créditer un numéro Togocel ou Move en fait directement au Togo. Donc si vous avez votre numéro avec vous et que vous faites souvent la navette entre je sais pas trop l'Europe, le Togo ou bien les États-Unis, le Togo et tu etc. Ça peut être une bonne idée d'utiliser ce site en fait pour recharger vous-même en fait votre puce tout simplement pour rester dans la game en fait. Seconde chose aussi, si vous voulez en fait appuyer financièrement vos petits frères, vos petites sœurs, peut-être à Lomé ou voilà des amis qui se débrouillent pour faire un certain nombre de choses. Vous dites bon voilà, j'ai pas envie de t'envoyer de l'argent, mais je peux quand même contribuer financièrement à te payer, je sais pas trop, 4500 francs CFA par mois pour ton crédit de communication. Je pense que ça pourrait être correct. Donc voilà, je vous laisse rapidement en fait le lien dans la description et on se dit tantôt pour la petite conclusion, les conseils, les recommandations par rapport à cet épisode qui est vraiment intéressant. À tantôt. Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes à merveille. Alors, on est à la conclusion du podcast. J'espère que tu as aimé l'épisode avec Sobel Aziz Ngom. Et je vais faire un petit résumé rapide et puis laisser mes conseils et mes recommandations. Alors, la première chose dont on a parlé, c'est éducation, école de la vie, instruction. Voilà, il y a des différences à faire sur tout ça. Alors, la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'éducation scolaire telle qu'elle est conçue, dans nos pays africains ne permet pas vraiment de nous enseigner l'école de la vie. Et je suis plutôt d'accord avec Sobel Ngom lorsqu'il dit ça, parce que c'est ce qu'on remarque, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit déjà, c'est ce qu'on a vécu. Et c'est important de dire en fait que ce ne sont pas les diplômes qui font les hommes, c'est plutôt l'école de la vie qui fait les hommes. Et moi je vais ajouter qu'en fait, cette école de la vie dont on parle, ça doit prendre en compte nos réalités africaines, tout simplement. Il y a des valeurs à partager, des valeurs en fait que l'éducation scolaire pourrait nous partager, mais du moment où l'enseignant ou les programmes scolaires ont un vide et qu'ils n'arrivent pas à inculquer un certain nombre de valeurs aux apprenants, ce serait bien que les parents prennent la relève. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis plutôt d'accord avec Sobel Ngom lorsqu'il dit qu'on devrait aider les parents à pédaler suivant la culture et les réalités. Et les parents, ben, c'est nous les parents, les futurs parents, les actuels parents, etc. C'est à nous de rectifier le tir dès maintenant. C'est à nous de prendre conscience de l'importance de la façon dont il faut éduquer nos enfants. Il ne faut pas juste se dire, ah, voilà, mon enfant va à l'école, il aura tel diplôme et puis c'est tout. La licence, le master, c'est rien, c'est juste un bout de papier. C'est rien du tout. On peut être diplômé, on peut être instruit, mais ne pas être éduqué. Oui, ça peut arriver. Nous avons des personnes comme ça qui existent dans notre société. Ah, tu n'en as jamais vu? J'en connais. Oui, ils existent ou elles existent. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui que de comprendre que l'éducation scolaire a des défis qui touchent en fait l'instruction, le fait qu'il n'y ait pas en fait des valeurs qui soient introduites dans les curricula, le fait que dans les programmes scolaires on ne retrouve pas justement des matières qui touchent l'école de la vie, la pratique en fait. Les enfants seront confrontés à des réalités, tout simplement. Et les parents le savent, les enseignants le savent, la société le sait. Pourquoi ne pas préparer ces enfants à ces réalités, tout simplement? On peut tout d'un coup décider justement d'introduire dans nos programmes scolaires des matières qui touchent les réalités de la vie, qui touchent la gestion financière, qui touchent la vie de couple, parce que peut-être les enfants, lorsqu'ils arrivent au lycée, etc., il ne s'agit pas, selon moi, juste de faire une matière qui touche les sciences de la vie et de la terre, pour dire, voilà, la reproduction, c'est ceci, et tu es titre. Ah non, il faut qu'on parle des vrais problèmes qui nous touchent en Afrique. Il faut qu'il y ait des matières là-dedans. On peut avoir des matières comme on en a déjà, hein, pas de souci, et tu es titre. Mais il faut qu'il y ait des matières qui touchent la réalité. Même des matières qui touchent la réalité, par exemple, de l'entrepreneuriat en Afrique. Il ne s'agit pas juste de dire tout le monde doit devenir entrepreneur, et puis c'est tout. Donc, quelque part, il y a un gros travail à faire. Alors, un des défis aussi de l'éducation scolaire actuellement, c'est l'adéquation, formation, emploi, et puis, etc. Je pense que ça, c'est un vieux débat qui revient toujours. Il y a même eu des projets qui allaient dans ce sens. Je me souviens encore d'un des projets d'un de mes amis à Dakar qui voulait régler ce problème-là. Et je me rends compte à quel point c'est vraiment urgent de le faire. Faire en sorte que le programme d'éducation scolaire qu'on a en fait en Afrique puisse vraiment concorder avec les réalités du marché. Si on a besoin de personnes qui soient économistes, qui soient dans les sciences, etc., il faut qu'on ait aussi à la fois des programmes qui vont dans ce sens, mais aussi en fait des opportunités d'emploi qui vont dans ce sens-là. Donc, quelque part, il y a un gros travail de diagnostic déjà à faire pour pouvoir proposer des programmes qui vont dans ce sens. Il va falloir se faire violence, forcément. Je sais que ce n'est pas évident pour nos dirigeants et tout, mais il va falloir se faire violence pour mettre en place des programmes qui concordent avec nos réalités, tout simplement. L'éducation sur les relations humaines et la responsabilité et la responsabilisation des enfants. C'est d'ailleurs un sujet qui était venu dans l'épisode 7 avec notre actrice ivoirienne Siata Traoré. On en a un peu parlé, la responsabilisation des enfants. Et je pense que c'est très important que les parents aillent dans ce sens. On a aussi parlé avec Sobel de la pression sur les jeunes. À 21 ans, il y a des jeunes qui disent qu'ils n'ont pas réussi, etc. C'est juste qu'ils ne sont peut-être pas encore préparés à la vie réelle. Donc, je pense que c'est déjà à cet âge qu'il faut vraiment commencer à préparer les jeunes. On devrait le faire déjà plus tôt. Il y a, je pense, un ami qui avait publié sur Facebook qu'il est important d'introduire certaines matières dès la classe de 6e. En Afrique, ce n'est pas fou du tout. Et donc, le coach doit pouvoir mettre l'enfant dans les réalités de la vie et l'histoire sociétale. On en a un peu parlé avec Sina Tusaka dans l'épisode 13, justement, lorsqu'on parlait des langues africaines, de l'importance des langues africaines, de l'importance que nous, les Africains, on doit donner aux langues africaines. Donc, je me rends compte à quel point le coach doit jouer un rôle vraiment primordial. Mais au moment où l'école échoue sur certains points, les parents doivent prendre la relève. D'où l'intérêt d'avoir des parents formés. Donc, il est important d'apprendre tôt aux enfants ce qu'on a appris tard, nous, en fait. Car il est plus facile de construire des enfants forts et solides que de réparer des hommes brisés. C'est primordial, c'est important, c'est capital. C'est capital. Nous sommes tous des hommes, nous sommes des Africains. Quand je dis hommes, c'est avec grand H, donc des hommes et des femmes. Nous sommes des Africains, des Africaines. Nous avons été éduqués par nos parents. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a certains parmi nous qui ont fait un diagnostic, qui ont vu ce qui a manqué. Pourquoi ne pas nous, en fait, compléter cela? Pourquoi tout simplement reproduire, bien consciemment, hein, reproduire exactement ce que nos parents nous ont inculqué, sans à un moment donné se poser une question. Ce que je n'ai pas pu faire, ce vers quoi j'aurais voulu aller, pourquoi ne pas faire en sorte que mes enfants puissent aller vers là? Là, je parle mina. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à apprendre aux enfants certaines choses. Il faut les pousser aussi à apprendre, comment aller vers la découverte. C'est important. Donc, la réussite dans la vie, justement, c'est contribuer à la réussite des autres. La réussite des autres, et les autres, c'est qui? C'est nos enfants, notre entourage. Et honnêtement, en tant que parent, si demain, votre enfant vient vers vous et vous dit, votre enfant, elle a une fille, par exemple, elle vient et puis elle vous dit, maman ou papa, un garçon m'a approché. Il m'a dit qu'il voudrait sortir avec moi, qu'il voudrait me rendre heureuse, etc. J'ai besoin de conseils. Honnêtement, lorsque votre fille vient vers vous et vous dit ça, déjà, c'est une réussite. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est votre réaction. Vous n'avez pas à l'insulter, lui dire, « Ah, tu fréquentes déjà des garçons? Pourquoi tu fais ça? Nique-tu l'amour? Ça veut dire quoi ?» Non, vous n'avez pas à le faire. Faites asseoir votre fille et discutez avec votre fille. Discutez avec votre fille. Si possible, racontez-lui en fait des expériences que vous avez vécues. Même si c'est des expériences tronquées, c'est pas grave. Mais vous devez pouvoir faire en sorte que votre fille vous fasse confiance pour le reste de sa vie. Même chose pour les garçons. Donc, quelque part, il y a une éducation qu'on doit donner aux enfants au-delà de l'instruction, de ce qu'ils apprennent en fait sur tout ce qui concerne la reproduction à l'école. Il y a des choses qui vont au-delà de la reproduction, des choses à savoir avant, après, etc. Donc, je pense qu'il est important de pouvoir vraiment éduquer nos enfants, transmettre des valeurs, faire en sorte que nos enfants puissent transmettre les mêmes valeurs et ainsi de suite. Il faut qu'on puisse construire des sociétés ou une société qui qui nous ressemble réellement, en fait. Faut pas faire en sorte que les enfants aient peur des problématiques ou des problèmes ou de certains sujets. Il faut qu'on puisse en parler librement. Et c'est seulement avec nos enfants qu'on pourra le faire. C'est important. Et il faut que nos enfants connaissent l'histoire des parents. Il faut que les enfants connaissent l'histoire des parents. Il faut que nos enfants connaissent notre histoire, à nous. Ce qu'on a traversé. Ce qu'on a vécu avec nos propres parents, et ainsi de suite. Je ne veux pas être long, mais je pense que vous avez compris l'essence de mes propos. Et je vais finir avec ceci. Lorsque vous décidez, et ça c'est vraiment lorsque votre enfant devient, devient plus âgé, etc. Lorsque votre enfant décide de s'engager, vous discutez vraiment de certains sujets sur l'engagement de la vie de couple. C'est-à-dire que lorsque vous voulez vous engager avec une personne, il faut que vous adhériez au projet professionnel et personnel de l'autre, de la personne avec qui vous voulez partager sa vie. Il faut que vous puissiez comprendre sa vision du temps également. Parce qu'il y a des activités professionnelles qui demandent du temps. Il faut que vous puissiez comprendre que votre conjoint a besoin de travailler, a besoin de temps pour travailler également. Donc, si votre conjoint a besoin de 4 jours pour être focusé sur un travail, donnez-lui ce temps-là. C'est important. Vous devez respecter, disons, le projet commun que vous avez développé ensemble. D'où l'intérêt justement d'avoir un projet commun, de pouvoir se comprendre, de pouvoir discuter de certains sujets qui touchent la gestion financière, qui touchent les valeurs familiales, qui touchent la famille. Ce sont les 3 grands sujets. Alors, il faut vraiment en parler. Et justement, ça va dans le sens de l'école de la vie, parce qu'il y a des choses que vous devez pouvoir partager à deux. Et ça va rejoindre justement le grand bol qui est l'histoire de chaque partenaire. Et ça, c'est le plus que je vais ajouter à cette conclusion. Il est important de passer aussi du temps avec soi-même, justement dans le cadre de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, parce que les exigences, en fait, sont différentes d'une étape à une autre. Lorsque vous étiez petit ami, lorsque vous fréquentiez, les exigences n'étaient pas les mêmes que lorsque vous serez marié ou lorsque vous êtes marié. C'est pas la même chose. Donc, il faut que vous puissiez faire un travail évolutif de votre mentalité, de vos conceptions. D'où l'intérêt de toujours continuer à discuter et à partager un certain nombre de choses à deux. Et surtout à se mettre d'accord sur des bases. C'est très important. Alors, je pense que j'en ai fini. J'espère que tout ce que j'ai partagé dans ce podcast t'a été utile. Avant d'aller vraiment vers la fin, je vais remercier certaines personnes qui continuent de faire la promotion de ce podcast. Merci beaucoup à Falila qui est un peu ma chargée de communication sur WhatsApp. Merci aussi à Noélie Grasse qui m'épaule énormément, qui m'encourage énormément, qui me pousse énormément à m'améliorer. Merci à Sina Maché comme je disais, qui ne cesse de me donner son avis à chaque fois, par WhatsApp, par Instagram, par Facebook, et qui écoute en fait pratiquement tous les épisodes. Vraiment, merci beaucoup, Sina Maché. Merci à Yves Orper aussi, qui partage beaucoup en fait mes publications. Merci à Kodjo Baba, merci à Benjamin Yoboué, merci à Paco Manene, qui franchement trouve un intérêt particulier dans ce podcast. Et merci à Paul Aminaglo, avec qui je travaille depuis un certain moment. Merci à tous ceux que j'ai pas pu citer dans ce podcast. Merci pour vos soutiens, pour vos partages, pour votre patience aussi, hein, parce qu'il y en a qui demande quand est-ce que le nouvel épisode sera publié, etc. Donc, merci à tous ceux qui soutiennent en fait cette initiative. On se retrouve dans l'épisode prochain, tantôt, avec une nouvelle personne. Je vais redescendre sur le Togo, donc à Lomé. Et j'espère que vous allez aimer. Et j'espère que vous avez aimé ce podcast avec Sobel Aziz Ngom. N'oubliez pas quelque chose de très important. La vie a un début et une fin. L'important, c'est ce que vous en faites. Allez, bye. Prends soin de toi.